Chapitre 75. Mausolée d'Ishak Pacha, Nakhitchevan. Le corps de Parastoukhan reposait sous le mausolée, sur une dalle de marbre, couché sur le côté droit, pied au nord-ouest et tête au sud-est, le coude posé contre le corps, l'index pointé vers le ciel. Le milliardaire avait fermé les yeux une fois les mercenaires hors de la cellule, puis avait doucement laissé la vie s'évader de son corps, sans un mot. Cela avait pris moins de 30 minutes. Arsène s'était assis à côté de lui, avait écouté la respiration du milliardaire s'accélérer d'abord, puis ralentir, faiblir, jusqu'à s'arrêter définitivement. C'était fini. Comme Cortès s'y était engagé, une dizaine d'hommes avaient accompagné Zach et Arsène lorsqu'ils avaient porté jusqu'au mausolée le corps sans vie, étonnamment léger, de Parastoukhan. Cécile suivait. Dans le mausolée, selon les rites funéraires azéris, Cortès avait fait préparer des bassines d'eau pour laver le corps, un long linceul de coton blanc pour l'envelopper et des livres de prières taisiers. Trois mercenaires armés se tenaient derrière eux, raides comme des statues. Sept autres gardaient la porte dans le couloir. Zach déplia le long linceul blanc.
« Sortez maintenant !» fit-il en se retournant vers les miliciens.
Zach s'exprimait en azéri. Les mercenaires restèrent de marbre.
« Vous êtes tous musulmans !»
continua Zach avec la détermination d'un imam courroucé.
« Vous avez tous enterré un parent. Y avait-il des hommes armés dans la pièce lors du rite ?»
Les trois gardes hésitèrent sur l'attitude à adopter face à ce chrétien qui leur donnait des leçons de morale religieuse dans leur langue natale.
« Faites le tour !»
ordonna Zach. Le mausolée se résumait à une petite crypte de pierre circulaire de 5 mètres sur 5, creusée en sous-sol, sans aucune fenêtre, sans issue autre que la porte. Zach insista encore, désignant chaque recoin de la pièce ronde avec son doigt.
« Nous n'allons pas nous envoler sur les ailes de Munkar et Nakhir !»
Les trois gardes se consultèrent brièvement, prirent le temps d'inspecter en détail la chambre mortuaire, chaque pierre, chaque dalle, puis consentirent à sortir. Ils tirèrent la porte derrière eux. Cécile se retint de hurler de joie. Zach laissa tomber par terre le linceul.
« Vite » murmura-t-il au professeur. « Pas une seconde à perdre. Il faut soulever la pierre tombale. »
Arsène Parella mit plusieurs secondes à réagir. Malgré lui, il n'arrivait pas à chasser une image obsédante de son esprit. Il y a moins d'une heure, il avait tué un être humain de ses propres mains. Il avait enfoncé l'extrémité métallique d'un ressort rouillé dans le ventre d'un homme qui lui avait demandé d'exécuter ce geste comme une faveur, comme sa dernière volonté.
« Mon cher professeur, »
avait eu la force de murmurer Parastoukhan à son oreille,
« mon salut ne viendra pas du respect de superstitions ridicules, mais de ma capacité à réparer le mal que j'ai engendré. Et pour réparer, je dois vous aider à fuir de mon palais. J'ai eu beau retourner le problème dans tous les sens, le seul plan que j'ai trouvé pour que vous ayez une chance d'échapper aux hommes de Kirill implique que je meure. »
La stèle, vite,
pressa Zach. Arsène Parella s'extirpa de sa torpeur. Cécile s'arc-bouta elle aussi sur l'épaisse dalle de marbre. Elle lut l'épitaphe tout en bandant les muscles de ses bras. Arina Khan, 1931-1983. À mon épouse, l'âme d'Ishak Pacha, puisse ton esprit s'envoler par-delà les frontières et séjourner avec les anges au-dessus de la Rara. La pierre de marbre devait peser plusieurs centaines de kilos. Au prix d'efforts démesurés, ils parvinrent à la faire glisser sur quelques dizaines de centimètres.
Poussons-la encore vers l'entrée du mausolée, suggéra Zach à voix basse. « Si nous parvenons à la poser entre la porte et la base de la tombe, plus personne ne pourra entrer. »
Ils soufflèrent longuement, puis continuèrent de pousser le bloc de marbre. Arsène Parella laissait son corps agir, ses muscles souffrir, pendant que son esprit s'égarait encore. Il entendait les murmures de Parastoukhan, sa parole apaisée.
« Professeur Parella, écoutez-moi avec attention. » Il existe au Nakhitchevan tout un réseau ancien de canaux d'irrigation souterrains. On les appelle ici des chaéris. Ils étaient creusés à la main pour amener l'eau des montagnes jusqu'à la plaine. Mais les chaéris ont été progressivement abandonnés avec l'introduction de systèmes modernes de canalisation. Tout le monde les a oubliés. J'ai financé ces dernières années beaucoup de programmes de restauration. Ce n'est pas le moment d'un bilan, mais j'ai la fierté de pouvoir dire que, grâce à mon argent, près de 50 villages de notre République sont fournis en eau uniquement par la remise en service d'anciens chaéris.
La plaque de marbre continuait de glisser, centimètre après centimètre. Zach avait étendu par terre le linceul blanc afin d'atténuer le bruit.
« Cécile, ordonna-t-il, inutile de pousser la plaque, vous ne nous êtes d'aucune utilité. Essayez plutôt de couvrir le bruit en chantant des prières taisiées. Dans les rites funéraires azéris, ce sont les femmes qui mènent les chœurs. »
« Bah voyons !» pesta Cécile vexée. « Je n'en connais aucune !» Elle redoubla d'efforts pour tenter de pousser la stèle.
« Psalmodiez alors. Lisez phonétiquement les livres de prière et récitez, le plus fort possible. »
La chercheuse haussa les épaules, mais obéit. Elle se posta au plus près de la porte et cria dans une prononciation incertaine des prières azéries qu'elle choisissait au hasard. Elle se sentait ridicule autant que sacrilège. Zach et Arsène, épuisés, unissaient leurs dernières forces. Leur seul espoir reposait sur les ultimes révélations de Parastoucan.
Écoutez-moi, professeur. Comme presque tous les caravanes sérailles au Nakhitchevan, Ishak Pacha fut construit jadis sur un chaéris. Je crois être le seul à me souvenir encore de son emplacement.
La voix de Parastou avait encore faibli sous le coup de l'émotion.
« Il y a une trentaine d'années, lorsque le cœur d'Arina a cessé de battre, le lieu que j'ai choisi pour y ériger le mausolée de ma femme m'est apparu évident. L'emplacement même de l'arrivée du chaéris oublié. Ma chère Arina était plus superstitieuse que moi. Elle avait ainsi l'impression que son corps serait protégée dans la crypte, mais que son âme pourrait plus facilement s'échapper si sa tombe comportait une ouverture, que les anges pourraient plus aisément circuler entre elle et le paradis.
Où débouche ensuite le chaéris ?
Avait demandé Arsène Parella, incrédule.
Je ne sais pas exactement. Le chaéris passe la frontière, sous l'Arax. Ensuite, il grimpe sous les montagnes iraniennes, selon le principe d'une conduite forcée. L'exutoire doit se situer quelque part au-dessus de la gorge de Makou, dans le désert iranien.
La plaque de marbre glissa sur le linceul pour s'arrêter derrière la porte. Zach s'effondra, trempé de sueur.
« Au moins, murmura-t-il, les hommes de Cortès ne peuvent plus rentrer. À moins de défoncer cette porte, mais ça leur prendra un sacré bout de temps.
Reste à sortir, ajouta Arsène.
Cécile, n'ayant plus à couvrir le bruit des deux hommes, avait cessé de réciter les prières azéries. Elle s'avança vers la tombe ouverte. Elle ne put qu'à demi réfréner un cri.
Mon Dieu!
La chercheuse porta sa main devant sa bouche.
Merde! Réagit Zach en se rapprochant.
Il se pencha au-dessus de la tombe. Le sol de la sépulture était recouvert de lattes de pierre cimentées avec du sable et de la chaux. Posé sur un drap blanc, le squelette d'Arina Khan y dormait sagement.
« On ne peut pas passer par là !»
bégaya Cécile.
« Pas par une... »«
Je crains que nous n'ayons guère le choix, » répliqua Zach.
Il sauta à pieds joints dans la sépulture. Sa semelle heurta une phalange qui s'effrita en une fine poussière blanche. Cécile écarquilla les yeux. De minuscules tiges vertes poussaient sous les pierres et s'immisçaient entre les interstices du drap troué, courant telles des nervures le long des os blancs du squelette d'Arina Khan. Des tiges plus larges sortaient des orbites noires du crâne et serpentaient vers l'os nasal et le maxillaire. Cécile avait l'impression que le cadavre se transformait en quelque chose de vivant. un squelette marbré de veines vertes irriguées de sève, mi-humain, mi-végétal. Du bout du pied, Zach écarta l'omoplate de l'épouse défunte de Parastoukan et se pencha pour dégager les joints de sable entre les pierres. Devant la mine horrifiée de Cécile, il se tourna vers la dépouille.
« Désolé de vous déranger, Arina, mais c'est pour la bonne cause. Il faut vous pousser un peu. »
Il écarta un tibia.
« Nous ne faisons que passer. »
Zach gratta la terre sous le drap blanc. Il arracha quelques tiges vertes.
« C'est bon signe. Ces plantes prouvent qu'il y a de l'humidité. L'entrée du Chaéris doit être juste en dessous. »
Il fouilla plus profondément. Sous le choc d'un geste incontrôlé, le crâne d'Arina se détacha et roula sur le côté. Cécile ferma les yeux, écœurée. Arsène passa derrière elle et posa tendrement sa main sur son épaule.
« C'était la volonté de Parastou, Cécile. C'est ce qu'il désirait. Que nous parvenions à nous sauver, y compris en profanant le tombeau de sa femme.
« Je sais. »«
Là !»
s'écria Zach. Il jeta des pierres sur le côté, dégageant sous la tombe une ouverture circulaire d'une cinquantaine de centimètres.
« Parastou avait raison, » murmura Arsène. « Vite, maintenant !»
Zach continuait d'agrandir l'ouverture. Elle atteignait maintenant près d'un mètre. Arsène serra la main de Cécile. Ils sautèrent ensemble dans la tombe. Zach se faufilait déjà. Cécile hésita une dernière fois. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la petite Amane, seule dans sa cellule. « Nous ne te laisserons pas, jamais !» Elle avait prononcé ces mots il y a quelques heures. Amane lui avait fait confiance. Mais quelle autre solution avait-il que de fuir, sans la fillette, en espérant revenir à temps la délivrer? Mon Dieu, était-elle devenue à ce point hypocrite? Les événements lui échappaient. Il n'y avait aucune bonne décision à prendre, juste survivre.
« Un conseil, Cécile, » dit Zach. « Attrapez le linceul de la tombe et entourez-le autour de vos cuisses. »
Le suaire sur lequel le cadavre d'Arina a pourri pendant toutes ces années, vous êtes dingue.
Oh non, cuisse nue sous votre robe, vous ne tiendrez pas 100 mètres à ramper dans ce tunnel.
Cécile grimaça de dégoût. À votre avis, quelle longueur fait-elle, cette canalisation?
Impossible de savoir. Disons entre 5 et 10 kilomètres. Mais c'est plutôt en dénivelé qu'il faut calculer. Le Chaéris doit monter à plus de 1000 mètres. Un autre conseil, Cécile. N'arrêtez pas vos prières.
Pourquoi ?
Pour qu'il ne pleuve pas pendant que nous ramperons comme des lombriques dans cette canalisation.
Nord de la Mésopotamie, 4370 avant Jésus-Christ, printemps. Ghana resta immobile de longs instants en observant la carcasse. Jamais la jeune fille n'avait vu un tel animal. Il était plus gros que tout ce qu'elle connaissait, 3 fois plus haut qu'un ours, large comme 10 buffles. Sa peau grise et ridée ressemblait aux croûtes de sol craquelées par le soleil, et ses oreilles pendaient comme des feuilles molles de palmier. Mais le plus incroyable était son museau, assez long et fin pour traîner jusqu'au sol, et ses 2 cornes blanches courbées. Leka observait elle aussi avec méfiance le monstre, reniflant l'odeur épouvantable de l'animal. La bête était morte. Les serviteurs des dieux lui avaient enfoncé 2 lances de cuivre entre les yeux. Ghana pensa avec horreur que son frère Bilik appartenait sans doute à la horde de bourreaux qui s'était chargée de ce massacre. Le cadavre du monstre avait été laissé sur place, au milieu du village, à proximité des autres dépouilles d'animaux. Des milliers de cadavres à perte de vue. Des animaux les plus inoffensifs aux fauves les plus dangereux. Des chèvres, des poules, des loups, des renards, des buffles, des rats, des sangliers, des martres, des biches. Tous égorgés. Des oiseaux avaient été abattus à l'arc. Des centaines de poissons avaient été tirés de la rivière grâce aux filets de lianes inventés par les dieux et abandonnés sur la berge. Les canaux qui passaient sous les maisons charriaient des torrents de poils, de plumes, de griffes, de crocs, d'écailles. Sa mère Machka tira Ghana par l'épaule. Elle avait raison. Il ne devait pas s'attarder, pas se retourner. Il devait continuer à gravir le sentier dans la montagne, même si, À chaque virage, ils découvraient à nouveau la vision d'épouvante de leur village à feu et à sang. Les quatre ôtaient devant, puis s'arrêta pour attendre Ghana. La jeune fille, épuisée, progressait plus lentement que le groupe, les deux bras passés sous son ventre lourd. Il marchait depuis longtemps à présent. Le soleil commençait à descendre sous la cime du plus petit des deux sommets. Ils étaient une quinzaine au total, hommes, femmes et enfants. Après les révélations de son fils, Machka avait convaincu quatre familles voisines de les rejoindre. Ils avaient fui la nuit précédente. Pour la plupart, les autres ne croyaient pas aux menaces des dieux. Après tout, malgré toutes leurs inventions, les dieux n'étaient jamais qu'une poignée, seulement protégés par quelques serviteurs, le plus souvent des gamins qui portaient pour la première fois une arme. Quelle menace constituaient les dieux en réalité? Ils avaient eu tort de révéler leurs secrets aux hommes. Quel pouvoir leur restait-il? Machka avait renoncé à les faire changer d'avis. Elle n'avait pas de temps à perdre. Bilik, son fils, leur avait assuré que les dieux avaient construit des barrages sur les fleuves, plus loin entre la plaine et la montagne. Ces barrages ne laissaient passer que de maigres filets d'eau, juste suffisants pour s'y laver et faire pousser les plantes. « Tout va céder », avait juré Bilik. « Les dieux veulent tout nettoyer avant de partir. » Machka se laissa un peu distancer par le groupe et attendit sa fille. Elle passa sa main autour de la taille de Ghana, avec tendresse, en cherchant des yeux un bâton suffisamment long et rigide pour fournir une aide à sa fille. Même si elle était certaine d'avoir pris la bonne décision en fuyant le village, Machka se demandait comment allaient réagir les dieux. Pas ceux de la plaine, non. Ceux de la Rara. Elle se souvenait du monstre aux langues de glace, des esprits des grottes, des cracheurs de feu sous le sol, au fond des gouffres noirs. À choisir, elle préférait ces dieux discrets, même s'ils n'inventaient rien pour eux, même si leur colère pouvait être tout aussi mortelle. Avec le temps, aidée par la mémoire des parents et des parents des parents, on apprenait à connaître les réactions des dieux de la montagne. Une terre qui tousse, une langue de glace qui bave, une roche qui fume. Machka aimait, au fond, revenir dans ces montagnes où elle avait toujours vécu. C'est ici qu'habitait son homme, Otek. Jamais ailleurs, elle ne serait plus proche du ciel, des étoiles, plus proche des yeux d'Otek qui surveillerait pour eux les humeurs des esprits de la montagne. Son père, Avo, avait raison. Il ne fallait faire confiance qu'aux dieux que l'on connaissait. Avo était mort dans les flammes bleues pour cela. Ghana trébuchait à chaque caillou. Leur ascension serait longue et pénible. Sa fille était courageuse. Mais c'est le bébé dans son ventre qui inquiétait Machka. Uniquement le bébé. La montagne n'aimait pas les très jeunes enfants. Son bébé, à l'homme, était mort là-haut. C'est pour cela qu'ils étaient descendus rejoindre les autres hommes. Le regard de Machka se perdit vers la plaine, désormais minuscule. D'épaisses fumées montaient du village. On percevait comme un écho sourd des hurlements mêlés de bêtes et d'hommes. Machka souffla. Ils étaient partis à temps, à la bonne saison. Des fleurs bleues et rouges recouvraient les flancs de la montagne. Le bébé naîtrait sous le soleil. « Le bébé des dieux !» avait dit son fils Bilik. Il avait offert sa sœur aux dieux, dans la cabane près de la cascade. Il avait ainsi gagné leur confiance. Mais il restait un bébé, qu'il soit ou non un demi-dieu. Il aurait le temps de grandir, de prendre des forces suffisantes avant que la pluie d'étoiles froides ne recouvre à nouveau la montagne et qu'il ne se réfugie dans une grotte comme des bêtes. Machka frissonna. C'est ce qu'ils allaient redevenir, des bêtes, apeurées, mais vivantes.